vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Bonjour, vous êtes bien dans l'actualité des luttes du lundi au vendredi de 12h30 à 13h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et aujourd'hui, dans cette émission du vendredi 11 avril 2025, nous revenons sur la mobilisation étudiante qui se déroule en France depuis maintenant plusieurs mois autour des coupes budgétaires à l'université. Pour cela, nous vous diffusons deux reportages. Le premier a été réalisé lors de différents rassemblements et rendez-vous qui se déroulaient au mois de mars. Le second, lui, est issu de la manifestation du 3 avril 2025 dernier. On vous laisse donc écouter le premier reportage et on vient ensuite dans l'actualité des luttes.
Donc nous sommes là à Nanterre en ce 13 mars 2025 et je suis avec un étudiant qui va nous expliquer son point de vue sur la situation actuelle et le lien avec les universités.
Salut, du coup moi je suis Hugo, je suis militant à l'après et à l'après jeune depuis maintenant quelques mois. Effectivement, alors du coup on pense qu'il est nécessaire d'opposer un modèle de société à cette extrême droite et pour cela on pense qu'on ne doit pas passer sur une économie de guerre pour autant. On pense qu'on doit continuer d'investir massivement dans les services publics, investir dans la jeunesse également. Nous pour notre part à l'après jeune on mène actuellement une campagne nationale qui porte justement sur la case des services publics, qui expose aujourd'hui le fait que la jeunesse se retrouve exposé en première ligne face à cet abandon finalement de l'État. Et on pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de se structurer et donc d'opposer un modèle de société à cette extrême droite et donc pour le coup investir massivement dans les services publics.
D'accord. Et sur par rapport aux universités, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que là, par exemple, à Nanterre et dans l'ensemble des facs, en fait, il y a une espèce de commission sortie nulle part qui a noter toutes les licences, masters et des universités, et c'est une véritable boucherie pour certaines facs, notamment à Nanterre, et ça vise surtout les formations dites de sciences molles, en gros les formations de lettres, de sociologie, etc., qui permettent de réfléchir au monde qui nous entoure et qui clairement veut liquider les formations de sociologie, principalement.
Tout à fait. Bah alors, moi, je ne suis pas le plus calé pour te répondre sur la question de Nanterre parce que je ne suis pas étudiant dans cette université.
Nanterre, par exemple. Plus touchée, par exemple, c'est Saint-Denis.
Mais là où je te rejoins tout à fait, c'est effectivement sur le fait que nous, à l'après, on milite pour le fait, premièrement, dans un premier temps, déjà d'investir beaucoup plus massivement dans les universités. On est vraiment partisans de l'émancipation par le savoir. On pense qu'il est essentiel, effectivement, dans ce que tu qualifies comme étant les sciences molles, on pense effectivement qu'il est essentiel de ne pas délaisser ces secteurs. C'est des secteurs qui nous permettent aujourd'hui de mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Et on pense qu'effectivement, il est tout à fait essentiel de continuer d'investir dans ces filières. Et par ailleurs, on est aussi partisans de l'abolition du système de Parcoursup qui aujourd'hui met sur le carreau des milliers et des milliers d'étudiants chaque année.
D'accord. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Aucun investissement jusqu'au 31 mars de cette année. Il y a tout un tas d'universités dans d'autres facs où les missions sont interdites jusqu'à nouvel ordre, sauf cas d'urgence. On est dans une situation qui est inédite à mon avis.
Est-ce que du coup le manque de moyens au quotidien, tu le ressens vraiment dans l'université ?
Ouais, tu vois, par exemple, là je vais un semestre avec une option en géo, on n'avait pas de prof de TD.
Il n'y a plus de budget en permanence, pour acheter du matériel c'est compliqué.
Il devait y avoir par exemple deux groupes de TD, il n'y en a plus qu'un seul et il y en a qui viennent et qui tentent tant bien que mal de quand même avoir des TD.
Par exemple, il y a une formation de psychomotricité qui va fermer. À Paris 1, j'ai entendu que la bibliothèque aura moins de ressources.
Les abonnements vont être en grande partie suspendus. Donc on ne pourra plus avoir accès à la science et au savoir qui sont produits. Ça, c'est inquiétant.
On n'est pas beaucoup, malheureusement, parce que c'est difficile de mobiliser l'enseignement supérieur et le milieu de la recherche.
Il y a eu pas mal de mouvements étudiants au premier semestre. Donc le deuxième semestre a un peu de mal à démarrer sur ces questions-là.
Vous attendez quoi, du coup, à l'issue de la journée du gouvernement, que ce soit Elisabeth Borne ou le ministre de l'ESA ?
Bon, j'attends rien d'eux. Hein. Franchement, je crois qu'il n'y a rien à attendre d'eux.
Il y a tout un tas de facs où il y a des blocages et des rassemblements, des assemblées générales d'étudiants et de personnel. On pense que ça va continuer parce qu'il n'y a pas le choix. Il faut qu'on réussisse à changer de budget.
De mobilisation nationale. Je nous attends nombreux tous les jeudis. Là, la CNE, Coordination Nationale Étudiante, elle appelle à des jeudis noirs sur nos universités. Elle appelle les étudiants à reprendre leur rue, à reprendre leur fac, à reprendre leur voix, en fait, et à se faire entendre. Donc tous les jeudis, on sera là pour se mobiliser et tous les autres jours pour massifier, pour faire des actions de solidarité, pour conscientiser les gens. Merci à tous. Et à la semaine prochaine.
Merci. Je donne la parole à Anya pour l'UNEF.
Merci. Bonjour. Du coup, moi, c'est Anya pour l'UNEF, le syndicat étudiant. En tout cas, moi, je suis très heureuse de voir autant de monde dehors. Ça fait une semaine qu'on est quand même extrêmement nombreux dans la rue, partout en France, pour dire non aux coûts budgétaires, pour dire non à la sélection, non au financement privé de nos universités. Là, ce qui est en train de se passer, c'est grave. On a un gouvernement qui est en train de totalement casser nos universités, avec la mise en concurrence de nos universités, avec le financement privé de nos universités, avec une sélection organisée qui sera de pire en pire les prochaines années, avec la mise en place de Parcoursup, de mon master. On a de plus en plus de jeunes qui se retrouvent sans fac chaque année, et il va falloir qu'on les aide, ces étudiants, il va falloir qu'on continue à se mobiliser pour plus de budget. Donc en tout cas, merci à tout le monde d'être venu, on continue la mobilisation, parce que la riposte face à ce gouvernement, il ne se fera pas sans nous, il ne se fera pas sans les étudiants, il ne se fera pas sans la jeunesse, donc on continue à se mobiliser, levant aux côtés des retraités qui se mobilisent aussi contre la réforme des retraites, mais aussi le 27 pour dire non aux coupures budgétaires. Donc on continue la riposte, on continue les assemblées générales sur les facs et on continue d'aller dans la rue, toutes et tous ensemble, de façon unitaire. Merci.
Merci. Je donne la parole à Léna pour l'Union étudiante.
Bonjour à toutes et à tous. Donc on est toutes et tous réunis aujourd'hui pour la deuxième journée de mobilisation. C'est vraiment impressionnant qu'on soit de plus en plus nombreux dans cette mobilisation contre les coupes budgétaires imposées par le gouvernement. Ces coupes, elles sont délétères pour nos universités et pour les étudiants. Parce que le gouvernement, son projet, c'est d'imposer un tri social à l'université. C'est d'augmenter les frais d'inscription pour les étudiants. C'est virer les étudiants étrangers de nos universités et aussi virer les étudiants les plus précaires. Cette situation n'est pas tenable et c'est pour ça qu'on se mobilise. En parallèle, ces coupes, elles aident aussi le projet de l'extrême droite. Parce que ces coupes, elles augmentent les discriminations au sein de l'université et c'est un problème. D'autant que l'extrême droite progresse partout dans la société, on le voit aussi. 22 mars contre cette extrême droite et contre les coupes budgétaires. Enfin, aujourd'hui, à Paris 1, dans mon université, on a bloqué le conseil d'administration qui allait répartir les coupes budgétaires. C'est une victoire. Mais on ne peut pas s'arrêter là. On ne s'arrêtera pas tant que ces coupes ne seront pas retirées et tant qu'il n'y aura pas eu un réinvestissement dans l'enseignement supérieur. Parce qu'on veut des universités publiques, gratuites et ouvertes à toutes et à tous.
Merci, je donne la parole à Lisa pour le point levé.
Oui, bonjour, je suis Lisa, je suis militante au point levé, je suis étudiante à Paris 8. Je pense que le projet en fait des Calédoniens et de Macron, des étudiants plus clairs, hein, c'est de fermer l'université aux classes populaires, aux enfants d'ouvriers, aux enfants d'immigrés. Nous à Paris 8, c'est la moitié de nos formations qui sont concernées par un avis défavorable de l'HCRS. C'est les filières qui sont pas rentables, hein, c'est les filières artistiques, c'est les filières où il y a beaucoup d'étudiants étrangers, beaucoup d'étudiants précaires. Et je pense qu'il faut voir comment une journée comme aujourd'hui, ça montre la voie pour reconstruire un mouvement étudiant qui soit sain et qui soit dynamique. D'autant plus que voilà, c'est aussi un projet de mise au pas de la jeunesse. Enfin, je pense que tout le monde a voté Macron, qui se place comme le dirigeant guerrier en Europe. Je pense que c'est important que nous, les étudiants, on fasse entendre une voix alternative pour un mouvement anti-guerre. Et on pense que le mouvement étudiant, il a un rôle à jouer là-dedans. En service des étudiants, ils ont renversé leur premier ministre. Et je pense que ça montre la voie pour qu'on reconstruise un mouvement étudiant qui soit profondément contre la casse des services publics, contre la casse de l'université et contre la guerre. Dans une tradition anti-impérialiste et qu'on continue notamment à défendre notre soutien en peuple palestinien qui subissent encore en fait la guerre d'Israël au Moyen-Orient.
Merci. Mes camarades, c'était la dernière intervention.
Alors, donc nous sommes aux abords du ministère de l'enseignement supérieur où une manifestation étudiante était organisée 2 jours après celle des professeurs qui a été rejointe par les étudiants. On n'a pas eu le retour de la FSE, on va essayer de l'obtenir là.
Là, d'ici là, le travail qu'on a à faire dans les 2 prochaines semaines, c'est de faire en sorte que le 27, on soit encore plus nombreux ici.
Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'était important pour la FSE d'être là et quelle est la suite du mouvement selon la FSE? Est-ce que tu pourrais revenir également sur la manif de mardi où apparemment vous avez été tapé par la police?
Oui. Alors là, en ce moment, dans les universités, on se mobilise contre les coupes budgétaires qui touchent l'enseignement supérieur et la recherche, parce que ça va impacter nos conditions d'études, mais aussi impacter les conditions de travail des personnels de l'université. Donc le but, c'était vraiment mardi, mais aussi dans le mouvement de manière générale, d'avoir un front uni, personnel et étudiant. Et ce qui s'est passé mardi, c'est qu'en fait, initialement, en fait, se tenait... le CNESER budget, donc le conseil en fait national qui décide un peu des politiques qui va se passer au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui devait revoter en fait un budget à la baisse avec encore plus de coupes budgétaires. Et de base, on devait passer du coup proche du CNESER pour justement protester contre ce vote du budget encore plus déficitaire. Sauf que la préfecture de police a décidé de changer le parcours. Sauf qu'en fait, on était plusieurs étudiants et étudiantes à vouloir maintenir ce parcours, d'aller vers le CNESER pour pouvoir justement en fait les mettre face à leur réalité, à la colère des personnels et des étudiants. Sauf qu'on s'est retrouvés en fait en face de CRS qui nous ont empêchés d'avancer, qui ont matraqué les étudiants. On a des camarades qui ont eu des bleus le lendemain, etc. Donc ça a été très très violent face à des étudiants. Et c'est vraiment une violence disproportionnée parce que tout ce qu'on avait, c'était des banderoles en fait et nos slogans.
Oui, et là actuellement, on a eu il y a une dizaine de camions pour une manif étudiante. Voilà. C'est la première fois depuis quelques années. Ils voulaient vous emmener vers quel endroit?
Du coup, ils nous ont emmenés vers une sorte de petit parc, de petit square. Donc en fait, c'était plutôt une manif de genre une dizaine de minutes à peine, même si elle a été interrompue à plusieurs moments, justement parce que avec les étudiants, on voulait maintenir le parcours initial vers le CNESER. Et du coup après ça s'est fini plutôt en rassemblement avec des prises de parole, mais on trouve aussi quand même ça montre quand même la détermination en fait des étudiants qui sont prêts à arracher leurs droits, arracher l'argent dans les caisses du patronat, mais aussi dans tout le budget militaire. En fait, cet argent qui est utilisé pour la guerre devrait être mis dans les services publics, et c'est vraiment ça en fait nos revendications de manière générale. Et c'est pour ça qu'aussi, après, mardi, l'après-midi, on s'est réunis aussi avec une quinzaine de facs partout en France, en fait, pour discuter et pour pouvoir se coordonner nationalement par rapport à cette mobilisation sur les budgets.
D'accord. Et donc la suite du mouvement, donc du coup, ce sera tous les jeudis, il y aura des manifestations. Et d'ailleurs, avec les professeurs, est-ce qu'il y a une coordination qui commence à se monter ?
Alors, pour l'instant, avec les personnels de l'université, c'est plutôt l'intersyndicale ESR qui existe. Mais je sais qu'en fait, dans plusieurs universités, il y a plusieurs AG qui ont des liens étudiants et personnels, mais ça reste vraiment des choses à travailler et à amplifier en fait sur toutes les universités, parce que c'est qu'ensemble, en fait, personnel et étudiants, qu'on pourra gagner et arracher plus de budget pour nos universités.
Je vois particulièrement les gens de P8 parce que là, il y a même plus de la moitié des formations qui sont menacées. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Alors, ça dépend. J'ai les chiffres. Je vais te les donner. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ceux qui ont reçu un avis défavorable et il y a ceux qui ont reçu un avis favorable avec réserve. Donc, c'est des formations qui sautent, enfin, qui sont pas condamnées par l'État pour cette année, mais qui ont quand même des risques pour les années suivantes. Et ça, c'est presque 100% des licences de Paris 8. Maintenant, en avis défavorable en licence, il y a 64% d'avis défavorables et 46% d'avis défavorables sur les masters. Les pôles principalement touchés, c'est sociaux, histoire, sciences po, philo, littérature, tout ce qui va être sciences molles. Paris 8, c'est une fac de lettres principalement et de sciences humaines, et en plus en banlieue. Donc on estime que ce genre de discipline peu professionnalisante, etc., n'a pas sa place dans un public de banlieue, un public immigré de première, deuxième génération, un public aussi plus pauvre que dans Paris-Centre, par exemple.
Mais est-ce que ça a été discuté en CA ou en CFCU ?
Non, pardon. En gros, comment c'est discuté, c'est qu'il y a des experts, je mets des gros guillemets à ça, qui viennent voir les profs et qui leur posent des questions. Il faut savoir que ces experts, ils ne sont pas forcément du domaine demandé. Pour l'expertise des lettres, c'est des profs en art plastique, d'école d'art, qui sont venus expertiser les licences de lettres, où il y a plein de linguistique, par exemple. Ce n'est pas vraiment des experts. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que dans les rapports, souvent, il y a tout le rapport qui est très bon. Genre, ils disent super, même en termes d'insertion professionnelle, c'est cool et tout, alors qu'on peut penser ce qu'on veut de ce critère-là. Il loue beaucoup les licences de Paris 8, mais en conclusion, comme s'il y avait eu un peu une intervention qui tombe dessus, l'avis est défavorable et ils ne savent pas nous l'expliquer. Les critères, ils ne savent pas nous les donner.
Donc là, concrètement, on va vers la fermeture de Paris 8, sachant que actuellement, dans le même temps, y a la maison des études, la maison des doctorants qui est en train d'être construite. On est en train de construire plusieurs nouvelles ailes à l'université Paris 8. Donc, est-ce qu'on vous a expliqué, est-ce qu'on a des informations sur la suite pour Paris 8? Parce que là, on parle de fermeture de la fac, là.
Non, ce qu'on parle, c'est d'un enseignement supérieur à deux, voire trois vitesses. Déjà, il y a de plus en plus d'étudiants qui sortent de terminale, qui vont dans le privé. Pour les chiffres, pour la rentrée 2024, c'est 25%. Ensuite, parmi l'université publique, il y a toujours la possibilité d'avoir des universités où il y a des enseignants-chercheurs titulaires, etc., et des masters. Dans des grandes facs comme la Sorbonne, etc. Et pour les facs de seconde zone, comme le Sont Paris 8, comme les Nanterre, les facs de banlieue ou les facs de Mayotte, etc., des Drumtown, là, on parle de collèges universitaires. C'est des universités où il y aurait beaucoup moins de financement, que des cours de licence, beaucoup moins d'enseignants titulaires et très peu de chercheurs, où en gros, le but, ce serait de nous former tout juste à une activité professionnelle, mais très peu d'accroître et de diffuser la connaissance.
Et sur Paris 8 même, est-ce qu'il y a des mobilisations
Ouais, de fou, bah là ça fait un mois que ça se mobilise. Le but, c'est qu'on ait quand même un accroissement de la mobilisation dans les prochains mois. Il faut savoir que les mobilisations étudiantes, c'est pas rare qu'elles prennent que fin mars, etc. Donc pour l'instant, on est à un début de mobilisation, mais qui prend, sur lesquels les profs sont très déterminés aussi, parce qu'ils se sentent insultés par le dernier rapport de l'HCERS. Et les étudiants aussi se sentent de plus en plus concernés et se rendent bien compte que là, il y a un critère, comme je le disais sur le camion, raciste et qui discrimine les populations les plus pauvres, quoi, et que c'est injuste.
Est-ce qu'il y a eu des informations au niveau de la commu Parce que la Comieux, en gros, Paris 8 est fusionné avec, avec Paris 10.
Oui.
Est-ce qu'il y a eu une réaction par rapport à la Comieux, les camarades de P10?
Alors, pour P10, pour l'instant, on n'est pas coordonné, mais ce qu'on sait, c'est que pour ce qui est du collège universitaire dont je parlais, qui est le projet pour Paris 8, ce serait un collège universitaire qui serait commun à P10 et P8.
D'accord, donc j'ai essayé de trouver quelqu'un de P10. Merci.
De rien.
Et à Paris 4, ça se passe comment, alors?
En gros, la mobilisation, là, elle commence à prendre. Il y a 17 millions de coûts budgétaires. Et en gros, ça concerne surtout la bibliothèque, le personnel. Il y a genre 186 licenciements de prévus, pour des vacataires, des contrats qui ne seront pas renouvelés. Et en gros, il y a certaines licences qui sont en train de sauter, comme certaines majeures mineures où il y a des mineurs qui sautent. Et la licence de psychomotricité. Aussi, très concrètement, l'ouverture à Safran et Thalès, ce sont des marchands d'armes. Et qui ont des bâtiments et un truc qui est un peu une espèce d'incubateur à start-up pour cette entreprise-là, le fait de faire la guerre.
Ouais. D'accord, merci beaucoup. Donc, on est toujours à la manifestation de l'enseignement des étudiants de l'enseignement supérieur près du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, et je suis avec maintenant un étudiant de l'UNEF Nanterre qui anciennement, il y a quelques années encore, était associé à l'université Paris 8 Saint-Denis, et cette fameuse commission, donc tu vas nous expliquer un peu plus largement ce que c'est, a aussi visité Nanterre et nous dire à quel point ils ont été touchés par les résultats de cette commission. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est que cette commission dont on a très peu entendu parler ces dernières années?
Ça, cette lutte contre les coupures budgétaires, un gouvernement qui supprime plus d'un milliard d'euros dans les facs, qui va toucher, là, par exemple, à la fac de Nanterre, un budget qui a été raboté de 14 millions pour cette année par la présidence, qui va d'abord toucher les formations et qui va se traduire par très certainement dans les mois qui viennent par des suppressions de places, des suppressions de filières, comme par exemple à Brest où le président de la fac a annoncé supprimer 30% des places en STAPS et en psycho. Et donc voilà, cette lutte contre les coupures budgétaires, elle se fait aussi dans le contexte où cette commission, l'HCERS, qui est en fait une commission impulsée par le gouvernement...
Elle n'existait pas avant, en fait.
Elle existait sous une autre forme avant. Et en gros, la tâche qui lui est donnée par le gouvernement, c'est celle officiellement d'analyser en fait toutes les formations dans l'enseignement supérieur en France. Mais en fait, avec la logique qui est celle du gouvernement qu'ils essaient d'imposer, c'est-à-dire celle de la casse des services publics. Et comment ça se traduit très concrètement? Là, il vient d'y avoir une nouvelle vague d'analyses, d'études par cette commission, l'HERS, de plusieurs universités, dont Paris 8, dont Paris Nanterre. Et en fait, cette commission a donné des avis qu'elle dit défavorables à des dizaines et des dizaines et des dizaines de formations. À Paris 8, il me semble que c'est quasiment tout le département de philosophie qui est concerné par des avis défavorables. À Nanterre, c'est des filières comme des masters de droit, des licences de géographie, des filières aussi en philosophie, en langue. En fait, toutes les filières qui, dans l'esprit du gouvernement, ne sont pas rentables, en fait. Beaucoup de filières en sciences sociales, beaucoup de filières que le gouvernement en fait voudrait attaquer parce qu'il considère qu'elles ne sont pas rentables, qu'elles ne rapportent pas d'argent, qu'elles ne sont pas suffisamment professionnalisantes. C'est ça, hein, quand on regarde les rapports précis, toutes les fameuses recommandations de cette commission de la HERS, bah, en gros, ils reprochent le fait que ces filières ne sont pas assez professionnalisantes, qu'il faudrait intégrer des stages, intégrer des modules de professionnalisation, tout ce qui correspond en fait à
une vision libérale de l'université.
C'est ça, exactement.
Et donc, quelles en sont les conclusions pour Nanterre?
En fait, donc, pour l'instant, ce qui a été rendu par la commission, c'est des avis défavorables pour plein de formations dans différentes universités, ce qui, à la fin, peut conduire jusqu'à le fait que ces formations n'aient pas une accréditation, pardon, je n'arrive plus à dire ce mot. Ce qui implique quoi ? Bah, en fait, des formations qui n'ont pas ça, ce qui est fait par les présidences très souvent dans cette situation, bah, c'est tout simplement de supprimer le parcours, parce que ça veut dire beaucoup moins d'argent pour faire tourner ces parcours, ces formations. En fait, c'est cette logique libérale, ce que tu disais, asphyxier budgétairement les universités pour les forcer à supprimer les parcours, les licences, les masters qui ne correspondent pas à ce que veut faire le gouvernement.
Est-ce que dans ces rapports, est-ce qu'ils ont mentionné justement les étudiants étrangers, les étudiants sans papier ?
Alors, pas à ma connaissance, mais là, en ayant cette discussion, via un truc qui est évident, en fait, c'est que introduire des stages dans les formations, bah, en fait, c'est écarter les étudiants sans papier de ces formations de facto.
D'accord. Et sinon, sur la mobilisation, ces deux jours de mobilisation de cette semaine, c'est-à-dire le 11 et le 13, qu'est-ce que tu en retires ?
Bah, ça a été très important, ces deux journées. Il y a eu une convergence, une certaine convergence dans la rue le 11, des personnels, des enseignants, des étudiants. Les étudiants ont rejoint l'appel de l'intersyndicale du 11 et ont manifesté contre, avec ce slogan qui est important, de l'argent pour les universités, pas pour les flics ni pour l'armée, parce que c'est ça la politique du gouvernement aujourd'hui. C'est supprimé dans les services publics pour donner à la guerre. Et aujourd'hui, une journée très importante parce que c'était la première journée de grève étudiante appelée par, une journée qui n'a existé qu'au travers de tous les étudiants, tous les militants qui s'en sont saisis localement, 11 villes en France, pour aller, qui s'en sont saisis et qui sont allés s'adresser auprès des étudiants dans les amphis, dans les TD, pour les convaincre de rejoindre cette journée de grève, de ne pas rester spectateur face à ce gouvernement qui sabre dans les budgets, qui veut nous faire payer la crise qui crée de toutes pièces, parce qu'en fait, il y en a de l'argent, mais il n'est pas mis, c'est des choix politiques qui font qu'il n'est pas mis dans les universités. Et donc, c'est très encourageant parce que c'était en fait une journée de grève. Les étudiants, aujourd'hui, jeudi, 14h30, place de la Sorbonne, ils ont séché leurs cours pour venir. On était plus d'un millier d'étudiants dans les rues de Paris. Un jour de grève. Et le 27 mars, bah, le but, ça va être d'amplifier la mobilisation, d'étendre la mobilisation peut-être à d'autres lieux d'études, à d'autres départements sur les facs où le mouvement existe déjà. Voilà, et évidemment, faire le lien avec le personnel en posant un truc qui est très important, c'est la nécessité de la grève étudiante. En 2006, contre le CPE, on a fait reculer le gouvernement par des manifs de masse, des centaines de milliers d'étudiants qui ont séché leurs cours, qui sont allés s'opposer à la politique gouvernementale dans la rue, qui se sont adressés aux travailleurs. C'est ça qui avait fait reculer De Villepin, qu'on nous ramène en ce moment par la fenêtre, ce vieux politicien de droite. C'est comme ça qu'on avait gagné en 2018 contre la hausse des frais d'inscription, par des assemblées générales de masse à plusieurs milliers. Et c'est comme ça qu'on pourra faire reculer ce gouvernement, on le voit. Là, la grève qui vient de gagner dans le nord du 92 à Gennevilliers, à Géodis, ça a été un mouvement de grève très majoritaire, reconductible, qui a posé le fait de ne pas reprendre le travail et d'aller s'adresser aux autres sites qui n'étaient pas en grève pour exercer un rapport de force face au patron. C'est la même chose qu'il faut faire dans la jeunesse pour faire reculer les projets du gouvernement.
D'accord, merci à toi. Certain teachers who were hurt the children and we could by pouring their derision upon anything we did, exposing every weakness, however carefully hidden by the kid. What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No, poems no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet! Money, get back. I'm all right, Jack.
Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one
Vous êtes de retour dans l'actualité des luttes, et ce jusqu'à 13h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et on continue donc de vous parler de la mobilisation étudiante en vous diffusant un reportage qui a été réalisé le 3 avril 2025 dernier. Bonne écoute.
Nous sommes le 3 avril 2025. Nous sommes à Place de la Bastille où une nouvelle manifestation étudiante avait été organisée. Elle avait pour objectif de faire le lien avec la journée des fonctionnaires. Malheureusement, la journée des fonctionnaires a été très peu suivie. On en a très peu parlé. Là, ce que vous entendez, ce sont les CRS qui partent.
Pour les services publics, pas pour les flics, ni pour l'armée. Mais du coup, je vous parlais de la combativité, pourquoi ? C'est pas juste pour faire un clin d'œil à l'international et dire c'est top ce qu'ils font, c'est parce que cette combativité, elle nous montre la voie. Ce matin, du coup, je vous parlais de la manif, elle se finissait sur cette même place. On a des camarades qui sont fait, des camarades étudiants qui étaient mobilisés pour Stand Up for Science, qui se sont fait ouvrir le crâne par un coup de matraque par les flics. Ces mêmes flics qui passent à côté de nous, là. Cette lutte, on va la gagner. On va la gagner parce qu'on reste solidaire, parce qu'on n'a pas peur, parce qu'on reste unitaire et surtout parce qu'on a le courage. On a le courage de notre idée. On sait que c'est un mouvement qui va se construire sur le long terme. Des fois, on est dégoûté parce qu'on parle à des camarades de promo, ils ne sont toujours pas au courant des coupes budgétaires, tout ça. C'est un travail de fourmi. Certains diront que c'est un travail titanesque. Mais c'est pas si compliqué que ça. Ça demande juste de la détermination, le fait de rien lâcher, le fait de rester combatif et le fait de rester unitaire. Aujourd'hui, on manquait un peu de slogan pour la Palestine, un peu de drapeau Palestine et tout. Il faut pas qu'on divise la lutte entre plusieurs pôles. On fait tous partie d'une même classe. On lutte tous contre les mêmes oppresseurs et on gagnera la victoire ensemble, tous ensemble, contre la même bourgeoisie. Merci.
C'est Yousra pour l'UNEF.
Oui, donc c'est l'UNEF, le syndicat étudiant. Merci à toutes et tous d'être venus en manifestation aujourd'hui. Vous savez ce qui se passe dans les coupures. Je suis désolée, je n'ai pas de voix. Donc, on vit en ce moment les coupures budgétaires qui sont énormes, une marchandisation de l'enseignement supérieur. Il y a le privé qui est en train de monter. Ça fait des vingtaines d'années que c'est en train de monter. Et il faut continuer à se mobiliser sur nos facs, se manifester, etc. contre ces coupures budgétaires qui sont de 1,3 milliard d'euros. Le gouvernement est en train de toucher à nos services publics pour financer la militarisation, les armées. Et nous, on est là pour dire non à ça. Pour nos universités, pour nos services publics, on se mobilise et on continue de se mobiliser. Merci.
Merci les camarades. Et j'ai pas d'autres camarades pour des interventions. Donc on se retrouve tout à l'heure, d'ici une petite demi-heure à l'Assemblée Générale Interfac, 16h à la Bourse du Travail de République. Bravo à toutes et à tous.
Ça fait maintenant depuis le 16 janvier qu'on est mobilisé avec l'Union étudiante contre justement les coûts budgétaires de l'université. À l'échelle de Paris 1, c'est 13 millions de coûts budgétaires qui ont été effectués. C'est un projet qui est délétère pour l'université parce que il empêche le fonctionnement normal des formations, des cours, il empêche de recruter de nouveaux profs, mais il y a aussi tous les membres du personnel qui sont impactés, de l'entretien jusqu'au BU, etc. Et du coup, si on se mobilise depuis maintenant 3 mois avec l'Union étudiante, c'est pour lutter contre ces coûts budgétaires, contre ce budget qui est austéritaire et qui tout simplement vise à fermer l'université au plus précaire et à créer un vrai tri social au sein de l'université.
On est attaqué au niveau du budget, donc en termes de fonctionnement. On risque de mettre la clé sous la porte, ni plus ni moins quand même l'année prochaine, à ce rythme-là. On doit être très très vigilant, parce que sinon l'université publique va mourir.
Depuis 2007, l'enseignement supérieur subit un sous-financement, et cette année encore, 1,5 milliard d'euros de coupes budgétaires ont été imposées par le 49-3.
On a peur aujourd'hui pour nos universités. Tous les ans, il y a des formations qui ferment, il y a des bâtiments qui ne sont pas rénovés, il y a même de l'amiante, on a des emplois du temps, on n'a même pas 10 heures de cours dedans. En fait, c'est vraiment compliqué et on a peur pour nos formations et on a besoin de budget pour que ça aille mieux.
On voit que la jeunesse est toujours au second plan des priorités de l'État. On voit que quand il faut investir, le contexte le justifie parfois, mais sur les questions d'efforts de guerre, il y a beaucoup plus de priorités qui sont mises que sur les questions de jeunesse. Et en fait, à la fin, on se questionne le fait de mettre les jeunes au second plan. Un pays qui n'investit pas dans la jeunesse, c'est un pays qui n'investit pas dans l'avenir.
Du fric ! Du fric !
pour la recherche publique.
Les mesures qui sont prises, c'est des capacités d'accueil qui diminuent, hein, et ça se voit pas trop. Au lieu de prendre 150 étudiants, ben, on n'en prend plus que 100. Au lieu de faire 4 groupes TD, on n'en fait plus que 3, mais on surcharge les effectifs, de fait. On arrête de commander les ressources documentaires dans les bibliothèques universitaires, ce qui fait que ben, elles deviennent obsolètes assez rapidement. On ne remplace plus les enseignants qui partent à la retraite, et on prend des vacataires pour faire leurs enseignements. Donc tout ça, c'est des mesures qui ne se voient pas. C'est des mesures qui font que finalement, on continue à fonctionner, mais en mode dégradé. Et ça, le mode dégradé, ben, ça débouche sur des formations qui sont particulièrement ben, dégradées de fait, et des diplômes qui n'ont plus le même sens progressivement.
On s'est effondré en mathématiques, on le sait très bien, hein, pour les mathématiques. Tous les classements le disent, toutes les enquêtes le disent. Comment le niveau des élèves s'est effondré en France, tout simplement. Et c'est généralisé. Ça veut dire aussi qu'il y a des recherches qu'on ne peut plus mener. Et je pense, par exemple, toutes les recherches sur les virus qu'on a abandonné, en particulier à propos de la Covid. On savait très bien que la France était en pointe. Et puis au début des années 2000, ben, on a fermé le labo. Et après, on s'est retrouvé avec l'épidémie de Covid, alors qu'on était en pointe.
On voit bien à quel point le discours politique aujourd'hui néglige tout ce qui est l'enseignement, l'état social, au profit de dépenses liées à la situation diplomatique. Pour nous, c'est une vraie inquiétude. Hein, vous avez vu le mouvement Stand Up for Science. On n'en est pas là, mais ça pourrait arriver vite en France également. Donc on est à la fois inquiet pour la dimension immédiate, matérielle, les aspects budgétaires, mais aussi par rapport, de manière plus philosophique par rapport à notre rôle dans la société.
La connaissance, ce n'est pas du business. On n'est pas là pour gagner de l'argent. On est là pour produire les concepts pour pouvoir comprendre le monde. Les UFR, c'est-à-dire les facultés qui précisément produisent les connaissances pour lutter contre toutes les formes de discrimination, je pense à la sociologie ou à la philosophie par exemple, sont précisément celles qui sont les plus affectées.
Sur la centaine d'universités françaises, il y en a environ 70 qui sont en banqueroute. Le gouvernement voulait mettre des moyens supplémentaires dans la défense, on peut en discuter, mais dans la recherche et dans l'enseignement supérieur, c'est tout aussi prioritaire, c'est une priorité politique. C'est une université qui est indépendante et qui assure la liberté d'enseignement, ce qui n'existe plus de l'autre côté de l'Atlantique.
J'enseignais au premier semestre à Nanterre, j'ai plus de 35 étudiants dans ma classe. Et on sait que ça va continuer d'augmenter dans les années à venir parce qu'on n'a tout simplement plus les moyens de faire autrement.
J'ai demandé à mes étudiants et étudiantes ce qu'ils pensaient de nous, comment ils nous imaginaient. Et ils nous ont dit, on vous imagine en CDI. On a aussi de l'eau qui nous tombait du plafond, donc on devait enseigner presque sous la pluie à l'intérieur. On imagine qu'avec les coupes budgétaires, ça va encore continuer.
On est dans une situation qui est hyper précaire, mais aussi au niveau temporel, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on va pouvoir bien faire avec notre doctorat.
Je suis avec des étudiants de Jussieu qui étaient avant cette mobilisation étudiante.
On est d'un syndicat étudiant, la Fédération syndicale étudiante. On est implanté à Saint-Denis, donc Paris 8, à Nanterre, et aussi du coup à Sorbonne Université, donc Saint-Denis.
Et donc du coup, tu viens de m'apprendre qu'il y avait un rassemblement aujourd'hui à Jussieu par rapport à la Palestine. Alors pourquoi à Jussieu? Qu'est-ce qui se passe à Jussieu sur...
En gros, il y avait une manif à la fois contre les coupes budgétaires, mais qu'on peut aussi lier avec l'utilisation de la Palestine qui partait de Jussieu. Et le truc avec Jussieu, c'est qu'il y a notamment la tour Zamensky. Et cette tour, elle représente assez bien genre, les intérêts qu'il y a des banques et des entreprises privées dans les facs, où en fait, elles vont financer les facs et en échange, ça va leur permettre après, elles, de supervisionner et pour après aller financer des génocides comme en Israël ou quoi. Et par exemple, à Jussieu, il y a Thales, il y a Safran, il y a Dassault. Je crois, qui sont des entreprises en fait, qui donnent de l'argent à la fac et qui du coup après peuvent récupérer un peu la recherche et tout et l'utiliser aussi pour financer littéralement le génocide et pour financer la colonisation en Palestine. Et du coup, c'est, par exemple, il y a une semaine, 10 jours, il y a une action là-bas où il y a des militants, notamment de la FSE et du comité Palestine, qui ont balancé de la peinture sur la tour d'Amansky justement pour montrer un peu leur protestation au fait que leur fac elle finance, elle soit liée en fait, à ces intérêts-là. Des génocidaires, quoi.
D'accord. Et tu peux nous dire comment s'est passée la manifestation d'aujourd'hui?
Ouais.
Qui malheureusement était très peu. Enfin, on n'en a quasiment pas entendu parler, malheureusement.
Il y avait des étudiants un peu de toutes les facs de France. Et en vrai, elle s'est passée ça allait jusqu'au moment où genre, les flics, vers la fin, ils ont commencé à charger. Il n'y a pas eu, franchement, c'était vraiment une manif. Il y avait quelques feux d'artifice qui étaient lancés en l'air, mais c'était vraiment ça. Et après, il y a la police qui ont juste.
Donc, à la fin de la manifestation.
Vers la fin, ouais.
Ils ont commencé à frapper.
Ils ont commencé à charger, à séparer les gens. Du coup, il y a des gens qui sont partis un peu dans tous les sens. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu des violences. Du coup, ils ont commencé à gazer. Il y a quelqu'un qui m'a. Une amie qui m'a raconté qu'elle était avec une fille qui s'avait pris une grosse. Enfin, qui avait pris une grosse bosse à cause de la police. Et par-dessus là, ça, en plus, la police, elle a gazé. Genre, là où ils étaient nassés. Donc, en fait, ils ne pouvaient même pas genre, s'occuper d'elle. Donc, et pareil, du coup, comme j'ai dit, un étudiant qui s'est fait aussi ouvrir le crâne. Voilà. Mais du coup, c'était. Pas genre dans plein d'endroits où genre la police elle a séparé les gens, donc voilà, ils poursuivaient un peu dans tous les sens quoi.
Donc tu veux me dire que durant la à la fin de la manifestation elle partait de Jussieu, elle allait jusqu'à.
Je sais pas où on est arrivé à Bastille.
Ouais, et donc ah oui,
c'était par là qu'en fait on s'est fait nasser genre dans la rue là-bas. Et c'est, ouais, c'est là que ça s'est passé sur Bastille, il y avait les flics qui tournaient un peu autour.
Le métro et tout. Ils ont massé des gens. Pour esquiver les policiers, il y a des gens qui sont descendus dans le métro et tout. Et ensuite, après, ils ont bloqué certains métros et tout. Et après, par rapport à Jussieu, en fait, dans plusieurs facs, c'était écrit comme quoi il y a un rassemblement à 11h, je crois, à Jussieu. Donc, dans notre fac, mais aussi dans d'autres facs comme, je sais, à Tolbiac et tout. Ils ont été prévenus qu'il y aurait un rassemblement ici.
Quand on pourrait croire que les flics tabassent des gens, du coup après ils appellent les pompiers et tout. Oui. Pas du tout. Ils tabassent les gens, ils les laissent dans leur merde, mais ils s'arrêtent pas à juste les abandonner. Ils empêchent les autres gens de se rassembler autour d'eux et de leur venir en aide.
Il y avait une fille asthmatique aussi.
Justement, en fait, celle qui s'est pris genre une bosse, je pense. Je sais pas si elle s'est cognée ou si elle s'est pris un coup d'un flic. En tout cas, elle avait une énorme bosse et en plus elle était asthmatique. Et en plus de ça, les flics nassaient et gazaient. Et donc c'était impossible de la prendre en charge. Et justement, elle était avec des amis et genre il n'y avait pas de médic ou de possibilité de la prendre en charge ou de sortir du truc parce que les flics ils encerclaient et qu'ils empêchaient ça.
Et les médics de manif, ils sont obligés de se montrer qu'ils sont médics pour qu'on vienne les solliciter, nous les manifestants. Mais du coup, les flics les identifient comme médics et c'est souvent parmi les premières victimes. De la répression des flics à chaque fois, genre il y a souvent des arrestations de médics, souvent ils sont isolés des cortèges, en gros il y a une vraie volonté que les gens qui subissent la répression elles soient pas ils soient pas pris en charge quoi.
D'accord. Et sur Paris 8, on sait que Paris 8 est l'une des facs les plus menacées par le comité d'experts qui s'est monté et le fait que en gros Jussieu c'est une fac de sciences donc ils ont rien à craindre et P8 c'est une fac de lettres. Ils ont beaucoup plus à craindre.
Il y a quand même des coupes budgétaires aussi à Jussieu. Je crois qu'ils ont genre un truc comme 8 millions de coupes budgétaires. Et il y a aussi en vrai les mêmes. Il y a un peu les mêmes trucs aussi.
Est-ce qu'il y a des menaces sur les licences ?
Pour Jussieu, je ne sais pas s'ils sont. Même si c'était évalué là. C'est une fausse
contradiction parce qu'il y a quand même un truc qui ferme à P4. Je crois que c'est à Jussieu en plus. C'est.
Ergothérapeute.
Ah. Mais c'est vrai que c'est plus résiduel qu'à P8, ça c'est clair et net. Et autant P8, on peut craindre peut-être une fermeture, en tout cas de la fac telle qu'elle existe, autant c'est probablement pas le cas pour les Sorbonnes. Mais c'est pas vraiment ça le problème, c'est qu'eux, en fait, ils vont connaître quand même une répression politique qui est très forte, dans le sens où leur. Si on parle, alors là c'est P4, mais Clignancourt par exemple, qui a un campus de P4 comme Jussieu l'est, les bâtiments appartiennent à Bouygues Télécom. Qui rentre, qui sort, si la fac est ouverte ou pas, c'est Bouygues Télécom, la fac elle loue. Et tu vois, il y a tous les trucs avec les partenariats, genre Thalès, Safran, Dassault, ils les ont vraiment tous les fils de pute de l'armement, ils sont présents à P4. Alors que nous, on n'a pas ça, on a LVMH, mais on n'a pas ça. Donc c'est des dynamiques qui sont différentes. On a tous raison d'être dans la mob budget parce qu'on a tous besoin d'argent public pour avoir la liberté d'enseignement, un enseignement qui est accessible, etc. Maintenant, évidemment, la modalisation de ces coupes budgétaires, elle va être différente selon qu'on est dans une fac de banlieue parisienne avec beaucoup d'étudiants qui vont être étrangers ou qui vont être des étudiants qui vivent dans les quartiers populaires ou si on est à Paris intramuros à la Sorbonne qui est lorgnée par les étudiants du monde entier, même des puissances impérialistes. Donc c'est sûr que c'est différent. Par contre, c'en est pas moins grave quand on est dans une fac où voilà, tu sais que tu veux faire ta recherche et que ça va potentiellement aller à des génocidaires, t'as raison de te révolter aussi, au même titre que les étudiants de P8 qui ont peur de ne pas faire de master, ils ont raison de se révolter aussi.
Donc on est à Bastille, à la fin du rassemblement appelé par les étudiants. Je suis avec deux fonctionnaires qui étaient précédemment au rassemblement appelé par la CGT Fonction Publique. Est-ce qu'il y a une suite ?
Bah là, il n'y a pas eu de suite d'annoncée. Il y a eu juste une prise de parole qui reprenait toutes les revendications salariales, de moyens, les budgets. Voilà, sur tout ça, quoi. Mais après, il n'y a rien eu par rapport à la suite du mouvement.
D'accord. Voilà. Et toi, comment tu vois la suite d'une manière sur les mobilisations sociales ? Parce que là, c'est morne pleine là, depuis un bon bout de temps, quand même.
Après, moi, je pense que c'est pas tout à fait morne pleine, parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Hein.
Oui, il y a plein de luttes, mais éparses, non coordonnées.
Ouais, voilà. Après, là, on va avoir une AG interfac appelée par les étudiants. Nous, on va y participer, et puis on va leur dire que, par exemple, dans la culture, il y a un mouvement qui est en cours aussi et qui appelle à faire des choses le 10 avril. Il y a aussi l'audiovisuel public qui est en mobilisation par rapport à la réforme de l'audiovisuel.
D'accord. Voilà. Tu penses qu'il y a des gens de la culture qui vont venir cet après-midi à l'AG ?
Ouais, je pense qu'il y en aura quelques-uns. Ouais. Voilà.
D'accord. Merci, à tout à l'heure.
Ouais, merci. Hein.
De rien. Nous sommes toujours ce jeudi 3 avril, juste après l'Assemblée Générale Interfac, l'AG Interfac de ce 3 avril, après une mobilisation plutôt réussie des étudiants. Elle devait être à la suite, dans la poursuite d'un mouvement d'unité avec les autres travailleurs, enfin, là pour le coup non en formation mais avec les travailleurs, notamment les fonctionnaires. Ça n'a pas marché puisqu'il y avait très peu de fonctionnaires sur place, entre 200 et 400 fonctionnaires, et que très peu ont suivi la manifestation. Donc là je suis avec un étudiant de Paris 4 qui va nous raconter sommairement ce qui s'est dit à cette interfac et le résultat de cette interfac.
Ouais. En gros, pour parler un peu de ce qui s'est passé, on a plutôt fait le bilan des différentes dates de manifestation auxquelles on avait appelé des journées de grève, que ce soit le 13 ou le 27. Et ensuite, on a aussi beaucoup discuté de comment on allait investir les prochaines dates, celle du 10 avril notamment, qui est une nouvelle date de grève auxquelles on appelle, qui est la semaine juste après cette semaine, quoi. Et le 1er mai, histoire de faire converger, pas forcément que la culture, mais tous les secteurs qui sont touchés par les services publics, contre la montée de l'extrême droite, contre la hausse des budgets militaires et contre tout un tas de politiques menées par le gouvernement qui sont des politiques de guerre sociale et auxquelles on s'oppose totalement.
Quel va être votre objectif pour faire le lien avec la culture ?
À mon avis, je pense qu'il faut qu'on se mette en lien, quoi. Il faut discuter avec eux, avec les cadres d'organisation pour pouvoir faire des manifestations en commun et avoir les mêmes mots d'ordre, hein, en fonction de ce qu'on veut représenter, quoi.
D'accord. Et là, sur les chiffres de la mobilisation, combien de personnes il y a eu à cette manifestation au niveau des étudiants, au niveau des facs, est-ce que c'est une mobilisation qui est suivie ou c'est une mobilisation des éléments les plus avancés du mouvement?
Pour l'instant, j'ai pas l'impression que ce soit encore des grosses dates. Il y a eu des journées à 1000.
On était combien cet après-midi?
Au moins 1000, quoi. Enfin, au moins 1000 à mon avis. Mais j'ai vu que des images, quoi.
Et sur P4, vous avez déjà eu sûrement des AG de fac à Paris 4. Tu peux nous dire comment ça s'est passé ?
Là, pour l'instant, ça prend un peu doucement mais sûrement. On fait des AG, ça peut passer de AG à 20, à des AG à 150, voire des AG à 200. Les gens, pour l'instant, ils sont dans une attitude plutôt d'observation, puisqu'ils ne comprennent pas trop. Il faut encore convaincre et expliquer ce que ça représente vraiment et comment... En fait, les gens ils sont touchés par ces coupes de budget, quoi, et pourquoi il faudrait faire en sorte qu'ils rejoignent. Mais pour l'instant, on n'est pas encore au même scénario que le premier semestre où il y avait 300 personnes qui allaient à la Sciences Po ou à Sorbonne-Mer. Là, c'est un des objectifs qu'on se met en tête grâce à cette journée, enfin, grâce à cette assemblée interfac.
D'accord, merci beaucoup.
Merci.
La vie est belle, Le destin sans les cartes, personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père soulève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu mon père en cycle partir travailler juste avant le sien en trois pièces grises et BMW? La monnaie est une belle femme qui n'épouse pas les pauvres. Sinon pourquoi suis-je là tout seul, marié sans dot? Pourquoi pour lui c'est crèche et vacances? Pour moi c'est stade de foot, sans cash, sans filet, sans même une ligne blanche. Pourquoi pour lui c'est l'équitation? Pour moi les bastons, pour lui la coque, pour moi les flics en faction. Je dois me débrouiller pour manger certains soirs. Pourquoi lui se gave de saumon sur de caviar, certains naissent dans les choux, d'autres dans la merde. Pourquoi ça pue autour de moi? Quoi? Pourquoi tu me cherches? Pourquoi chez lui c'était Noël ensoleillé? Pourquoi chez moi le rêve est évincé par une réalité glacée? Et lui a droit à des études poussées. Pourquoi j'ai pas assez d'argent pour acheter leurs livres et leurs cahiers? Pourquoi j'ai dû stopper les cours? Pourquoi lui n'avait pas de frère à nourrir? Pourquoi j'ai dealé chaque jour? Pourquoi comme moi je plonge, lui passe sa thèse? Pourquoi les caches d'acier, les caches dorées agissent à leur aise? Son astre brillait plus que le mien sous la grande toile. Pourquoi ne suis-je pas né sous la même étoile? La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Je peux rien faire, je peux rien faire. Spectateur du désespoir, je peux rien faire.
Comme Issa, pourquoi je suis pas né la bonne étoile? Veillant sur moi, couloir plein de doigts, de crachat, cha-cha, de francs. Compète des tapettes devant, supporter de grandir sans un franc, c'est trop décevant. Simplement en culotte courte, pas faire l'appel mécanique plate avec des pots de yaourt, c'est pas grave. Je n'en veux à personne et si mon heure sonne, je m'en irai comme je suis venu. Adolescent incandescent, chiant à tour de bras sur le fruit défendu, innocent. Témoin de type abattu dans la rue, c'est une enfance de la pourriture, ouais. Je ne drague pas mais virer des tartes aux petites avec les couettes. Pâle de peur devant mon père, ma soeur portait le voile. Je revois à l'école les gosses qui la croissent poil. C'est rien Léa, si on était moins scrupuleux, un peu de jeu du feu, on serait comme eux. Mais j'ai pleuré pour avoir un job comme un crevard sans boire. Mais je t'aime à mes parents seuls dans mon lit le soir. Chacun sans boulet, sans ambition, la vie c'est trop long. Écrire des poèmes, puis c'est violent dans un violon. Tu te fixes sur le wagon, c'est la locomotive que tu manques. C'est pas la couleur, c'est le compte en banque. J'exprime mon avis, même si tout le monde s'en fiche. Je serais pas comme ça si j'avais vu la vie riche. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Mon Dieu, pourquoi ne puis-je vivre comme n'importe quel être humain? Pourquoi mon destin est-il de ne pouvoir cesser de battre?
Je peux rien faire.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie là, sur nos petits, avec nos petites idées dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedeslutte.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.